Et ce matin, c'est le pasteur Bisuta qui a cette responsabilité de nous communiquer les pensées du Seigneur. Nous pouvons l'encourager alors qu'il s'élève.
Amen. Est-ce que nous pouvons véritablement acclamer le Seigneur? Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège de nous accorder, de partager la parole avec l'Église du Seigneur. Et aussi, je dirais merci au pasteur Bondo de nous avoir prêté un de ses tabliers que nous lui retournerons tout de suite puisqu'il revient dans les prochains jours. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12, 1 à 11. Et nous ferons une deuxième lecture dans 2 Corinthiens 2, 14 à 17. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 2, 14 à 17. C'est l'apôtre Paul qui s'exclame. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Jésus, ta parole est bonne, ta parole est merveilleuse. Nous venons humblement, nous venons nous disposer à la recevoir, à l'accueillir. Rencontre nos cœurs, rencontre les aspirations internes de chacun et fortifie par ton esprit, ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Récit merveilleux que celui de Jean 12, que nous avons lu avec Marie, qui est venue répandre du parfum sur la tête de Jésus, sur tout son être, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux et ses larmes. Quel récit profond! Un récit qui revient bien sûr dans les évangiles, dans Matthieu 26 et dans Marc. Ce passage aussi revient. Il est clairement dit que c'est dans la maison de Simon le lépreux que Jésus était invité. Par contre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir de 36 à 50, il y a un récit qui est similaire. On ne dit pas le nom de la femme, mais on dit plutôt que c'était une femme pécheresse. Et là, on parle plutôt de Simon le pharisien. Lorsque nous avons fait notre petite recherche, les avis sont partagés. Certains pensent que c'est le même récit, d'autres disent plutôt que c'est deux récits différents. En effet, la présence de Simon, la présence du parfum répandu sur Jésus, semble montrer que c'est le même récit. Mais lorsqu'on va plus loin dans le texte, comme je l'ai dit, et même dans la leçon, ici le Seigneur, dans Jean, le Seigneur rend grâce, disons, le Seigneur met un accent, une emphase sur ces gestes qu'a accompli cette femme, tandis que dans l'autre, le Seigneur est en train de dialoguer avec Simon le lépreux, pour lui dire que la femme pécheresse avait beaucoup aimé parce qu'elle avait été pardonnée de beaucoup de péchés. Il donne à Simon le pharisien une leçon sur le pardon, le péché et l'amour qui s'ensuit. Eh bien, moi, je vais faire un petit exercice. Nous allons lire les deux textes. Nous avons lu le premier, c'est vrai. Le deuxième, vous allez peut-être le lire à la maison, mais nous y reviendrons. Je ne vais pas m'attarder sur le contour, mais plutôt sur le contenu et les effets. Et c'est pourquoi j'ai pris pour thème le texte, une phrase tirée du livre de Jean, « La maison remplie de l'odeur du parfum ». Amen. La maison remplie de l'odeur du parfum. Comme je l'ai dit, nous reviendrons dans l'un des textes, tantôt dans l'autre, pour tirer des leçons. D'emblée, nous voulons dire que nous avons vraiment besoin, nos vies, nos églises, nos familles, notre nation ont vraiment besoin d'être remplies du parfum. Nos contrées, nos avenues, nos sociétés ont besoin d'être remplies du parfum. Est-ce du parfum ordinaire? Non, bien sûr que non. Nos familles ont besoin du parfum de la gloire de Dieu. Amen, hein? Nos églises ont besoin du parfum qui donne gloire au Seigneur. Dans un contexte, comme nous ne cessons de le constater, où le péché atteint des proportions exponentielles, où les œuvres des ténèbres sont de plus en plus grandes, répandant sur ce monde, répandant sur les familles, une odeur nauséabonde. La corruption qui gangrène nos nations, répandant sur elles une odeur des plus infectes. la convoitise, le meurtre gratuit, les faux enseignements, les faux docteurs qui s'infiltrent dans l'Église, détournant les âmes, corrompant les âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus est mort, répandant sur l'Église une odeur putride. Nous avons besoin de l'odeur du parfum. Nous avons besoin d'un assainissement spirituel. Alléluia. Nous avons besoin d'un assainissement de l'atmosphère spirituelle. Parce qu'avec Jésus et en Jésus-Christ seul, il y a espoir. On ne peut pas compter sur la chair. On ne peut pas. La chair a ses limites. La chair est rebelle. La chair ne peut rien faire de bon. Rien. Rien. Ce n'est qu'en Jésus, en Jésus seul, que nous pouvons espérer. Et puisque c'est en Jésus, comme nous l'avons lu dans le texte, nous avons besoin des personnes qui apportent le parfum. Des personnes qui introduisent la bonne odeur, comme dit l'apôtre Paul. Nous sommes de ceux qui répandons la bonne odeur de la connaissance de Christ. Des gens qui apportent le parfum, non pas pour encenser les hommes, parce que nous sommes tellement habitués à voir les gens danser pour les hommes, les gens chanter pour les hommes, aduler les hommes. Oh, triste scandale! Nous avons besoin des gens qui apportent les parfums répandus sur Jésus. Non pas pour encenser les dirigeants de ce monde, les leaders d'opinion, les célébrités, mais pour glorifier Jésus et Jésus seul. Amen. C'est pourquoi Jésus doit être prêché, annoncé, élevé. Amen. Il doit être élevé, il doit être annoncé, il doit être glorifié. Et c'est pourquoi ce message s'inscrit vraiment dans la pensée de la préparation de notre action. Ce message est une interpellation à plus de consécration. Amen. À plus de consécration de chacun d'entre nous. Avant d'aller plus loin, pour voir la personne qui porte le parfum, arrêtons-nous quelque peu sur les différents personnages de ces récits. Ces deux récits. Nous allons voir et tirer quelques leçons de ces personnages. Soit que l'on est dans Luc 7 ou dans Jean 12, nous avons affaire à Simon. Le premier personnage, nous disons Simon. Vous pouvez dire Simon 1, Simon 2. Nous avons affaire à quelqu'un qui s'appelle Simon. C'est lui qui a invité Jésus, le propriétaire de la maison. Il a invité Jésus. Simon le pharisien, nous ne savons pas pourquoi. Il a invité Jésus. Jésus répondait aux diverses invitations. Si vous l'invitez dans votre cœur, il viendra. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Hein? Simon a invité Jésus. Et de l'autre côté de Jean 12, c'est Simon le lépreux. On peut penser, comme avec certains commentaires, qu'il était peut-être lépreux, et Jésus l'a guéri. Et par reconnaissance, il invite Jésus chez lui. Et il présente à Jésus un bon repas. Simon invite Jésus. Il pensait peut-être avoir fait beaucoup de choses, avoir donné beaucoup d'honneur, mais nous regarderons son geste est limité dans sa portée. Lui, il pouvait se glorifier d'avoir invité Jésus, comme pour la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nous connaissons la chanson sur les statistiques de notre pays, 90% des chrétiens. Tout le monde invite Jésus, l'invite chaque jour. Mais nous allons voir Simon, Simon le pharisien. Lisons Luc 7, chapitre 7. Lui qui pensait avoir invité Jésus, en invitant Jésus, avoir fait quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Mais il va se faire sérieusement recadré par Jésus. Et ma prière est que chacun d'entre nous puissions tirer des enseignements de cette parole. Au verset 44, alors que l'échange avait déjà commencé pendant ce repas, la femme était entrée, elle a versé son parfum sur la tête de Jésus. Simon réagit. Au verset 39, il dit, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Voilà Simon qui a invité Jésus. Voilà comment il juge durement cette femme. Si ce Jésus-là, il était vraiment prophète. Donc il l'a invité, il avait quand même des doutes sur la personne qu'il invitait. Donc c'était une invitation qui n'était pas sincère. Peut-être pour assouvir une curiosité. Peut-être pour tendre des pièges. Et au verset 44, Jésus reprend. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu, Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quel verdict sur Simon? Tu aimes peu. Tu aimes peu. Quel verdict? Tu n'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et pourtant, c'était une coutume juive de l'époque. Lorsqu'on reçoit un invité, et qui plus est un invité des marques, on lui amène de l'eau pour laver les pieds. Avec les terrains boueux, les terrains sablonneux, il fallait mettre l'invité à l'aise lorsqu'il entrait dans la maison. Mais là, Simon ne l'a pas fait. Il ne m'a pas donné de baiser. Vous savez, les cultures du Moyen-Orient ne sont pas loin des cultures africaines. Hein. Vous avez remarqué ça, et pour certains lecteurs de la Bible. Il ne lui a pas fait l'accolade, comme c'était le cas lorsqu'on recevait quelqu'un avec joie. Il n'exprime pas à Jésus un amour qui déborde avec une accolade chaleureuse. Il n'a pas versé de l'huile. Là aussi, c'était une coutume pour les invités des marques. Dans les jours de fête, on pouvait verser de l'huile et du parfum sur l'invité qu'on recevait. Mais il n'a pas accompli ses marques pour Jésus. Il avait tout juste invité Jésus en lui réservant un accueil froid. Un coin plus ou moins arrangé dans son cœur. Et là, je me suis rappelé d'un des séminaires que notre pasteur a tenu il y a quelques années. Jésus, simple invité ou hôte des marques. Je crois que nous avons la réponse pour Simon, n'est-ce pas? Jésus était pour lui un simple invité. Bien-aimé, qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ? Un simple invité ou un hôte de marque? Simon se permet de juger cette femme pécheresse. Il donne un jugement dénigrant pour cette femme. Elle est pécheresse. De quelle espèce est-elle? Bien-aimés, laissons-nous transformer par le Seigneur. Amen. Hein? Laissons-nous changer réellement. Faisons de Jésus un véritable Seigneur dans nos vies. Ne nous contentons pas d'un Jésus invité dans le coin de notre cœur. Donnons-lui toute la place qui lui est due. N'ayons pas envers lui un amour insuffisant, car lui seul a la capacité d'apprécier. Si les autres pharisiens, au lendemain ou pendant qu'ils informaient de son initiative d'inviter Jésus, si les autres pharisiens pouvaient lui dire « Ah, tu es courageux, tu es formidable, tu as bravé toutes nos réalités en invitant Jésus. Oh, qu'est-ce que tu... quel acte !» Il pouvait se frotter les mains, mais Jésus savait ce qui était dans son cœur. Amen. Jésus sait ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. On ne peut pas le tromper. Faisons de lui le véritable Seigneur. Laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ouvrons-lui tout notre cœur. Ne venons pas avec des préjugés, avec des doutes, avec des choses qui nous retiennent. Venons à lui totalement. Et nous serons bénis, nous serons sauvés. Celui qui s'est réellement repenti sait voir les signes de la repentance dans les autres. Amen. Celui qui s'est réellement repenti sait voir les signes de la repentance. Simon ne s'était pas réellement repenti. C'est pourquoi il ne savait pas apprécier la pleine repentance de cette femme pécheresse. Oui, conteneur des péchés, mais pardonnée. Alléluia. Tu peux venir aussi avec tes conteneurs de péchés aujourd'hui. Tes péchés à peine nommables, tes péchés honteux. Ne te contente pas de sortir tel que tu es. À la fin de ce message, nous allons lancer un appel. Et même déjà, tel que tu es, Dieu connaît ton cœur. Tu peux t'abaisser et prier intérieurement. Demander au Seigneur, sauve-moi. Comme tu as pardonné, tu n'as pas laissé cette pécheresse. Fais de moi. Homme, femme, venez à Jésus. C'est lui la solution. C'est lui le salut de l'humanité. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Amen. Deuxième personnage, Marthe. Il est dit dans Jean 12, nous rentrons un peu dans Jean 12, au verset 2, « Là, on lui fit un souper, Marthe servait. » Je m'arrête là. Marthe servait. Des mois ont passé entre Luc 10, 38 à 42 et Jean 12. Dans Luc 10, nous avons Marthe occupée à divers soins domestiques. Nous avons Marthe qui servait, mais tout en servant, elle va critiquer Marie, sa sœur. Elle dit à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que Marie reste là alors que moi je m'occupe tout seul. » Jésus va lui dire, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Amen, hein? Marthe servait occupée dans son esprit. Mais des mois ont passé. Ici, elle ne sert plus occupée, elle sert tout court. Elle a compris la leçon. Elle ne sert plus en critiquant. Elle sert simplement, elle est fidèle à son poste. Elle fait preuve d'humilité et de soumission. Elle n'a pas dit, Jésus m'avait reproché de le servir. Maintenant, c'est fini, je ne sers plus. Certains d'entre nous se reconnaissent, n'est-ce pas? Ah, on m'a fait un reproche. On a fait un reproche sur ce que je faisais. C'est fini, je ne fais plus. Je ne sers plus. Oh, quelle triste réaction. Les reproches peuvent nous aider à nous améliorer. Amen, hein? Et refuser les remarques et les reproches, c'est deux choses. Et dans tous les cas, ces deux choses sont très mauvaises. Soit c'est l'orgueil, parce qu'on a une autre opinion de soi-même. On ne veut pas apprendre aux pieds des personnes. Soit c'est l'immaturité, qui est aussi une forme, qui va conduire finalement à une forme d'orgueil. Acceptons les remarques, acceptons les reproches. Lorsque nous refusons les remarques, nous abandonnons de servir, nous cessons de servir parce qu'on nous a fait un reproche ou un remarque, nous cessons de faire telle ou telle autre chose. Nous nous privons d'une grande quantité de choses que nous devons apprendre par essai-erreur. C'est la vie. Il y a des choses que nous apprenons par l'instruction, par la connaissance, de bouche à oreille. Il y a des choses aussi que nous apprenons par essai-erreur. Et quand nous commettons un essai, l'erreur nous enseigne au travers d'autres personnes. Marthe a compris la leçon. Elle était humble. Elle est demeurée dans le service. Malgré les reproches de Jésus, malgré un reproche qui semblait la diminuer pour élever sa sœur. Elle n'a pas compris cela. Et nous aussi, quand nous faisons des reproches, faisons-le avec beaucoup d'amour. Amen. Hein? Ne faisons pas des reproches de nature à diminuer l'autre, à l'abaisser, pour faire comprendre que nous nous sommes élevés. Loin de là. Qu'il n'en soit pas ainsi. L'Église a besoin des personnes qui ont le cœur des serviteurs comme Marthe, même après correction, sont toujours demeurés fidèles. Nos familles, la nation, ont besoin des personnes qui ont des cœurs de serviteurs qui veulent servir et servir Jésus dans tout ce qu'ils font. Qui veulent servir et servir Jésus. Oh, nous n'avons pas besoin, comme c'est trop souvent le cas, des jouisseurs, des personnes qui veulent d'abord jouir, des triomphalistes, des capitalistes calculateurs. Ils ne feront pas avancer ni l'Église, ni les familles, ni la nation, ni nos villes, ni nos avenues. Les calculateurs ne font rien avancer. Nous avons besoin des serviteurs. As-tu un cœur de serviteur? Avez-vous un cœur de serviteur, vous qui me suivez au travers les médias? Avoir un cœur de serviteur, c'est marcher sur les pas de Jésus. Il nous est dit dans Philippiens 2, 5 à 7, il nous est dit de Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. Ça, c'est la dimension dont nous avons besoin. Des cœurs de serviteurs, en devenant semblables aux hommes. Avons-nous des cœurs de serviteurs? Troisième personnage, Lazare. Il nous est dit que Lazare aussi était là, à la table du Seigneur, assis. Lui, le témoin de la puissance de Dieu. Que dire, témoin? C'est sa propre vie qui témoignait. Il n'a pas vu simplement, il a vécu. Il a vécu la puissance de Dieu. Il est l'image de la révélation du Seigneur. Cette révélation dans laquelle le Seigneur déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Lazare est l'image du chrétien mort et ressuscité en Jésus-Christ. Mort et ressuscité. Et lui, il est non seulement l'image, mais il est aussi le précurseur du Seigneur. Il est passé par ce chemin de la mort et de la résurrection. Dans Jean 12, nous sommes une semaine, 6 jours plutôt avant la Pâque. Les historiens placent cet événement de Jean 12 entre le samedi vers le samedi 1er avril de l'an 30. Si vous voulez une date actualisée. Parce que la Pâque aura lieu le jeudi. Et Jésus-Christ sera crucifié le vendredi de la semaine qui suivra. Lazare, témoin de la mort et de la résurrection, assis à la table du Seigneur. Il est l'image du chrétien en communion, mort en Christ, ressuscité en Christ, assis à la table du Seigneur dans une pleine communion avec Jésus-Christ. Et ces personnes-là, le monde ne les aime pas. Amen, hein? C'est ce que nous avons lu dans les textes. Les Juifs voulaient le faire mourir parce que beaucoup avaient cru en Jésus à cause de Lazare. Le monde va vous détester si vous marchez dans cet esprit de mort au moi charnel, ressuscité pour vivre selon Christ. Le monde ne vous aimera pas. Lisons Jean 15. Des passages bien connus. Jean 15, à partir du verset 18. La Bible dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Amen, hein? Oui, le monde hait les personnes qui marchent dans la vérité et dans la crainte du Seigneur. Le monde les déteste. Le monde les combat. Ce n'est pas étonnant. Ils ont combattu Jésus-Christ. Ils ont combattu Jésus-Christ. Ne soyez pas amis du monde. Si vous voulez être amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Vous vous rendrez ennemis de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être amis du monde. Nous ne sommes pas appelés à plaire à tout le monde. Jésus-Christ n'a pas plu à tout le monde. Amen. Il n'a pas plu à tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à prêcher le message qui plaît à tout le monde. Jésus-Christ n'a pas prêché le message qui plaisait à tout le monde. Amen. Hein? Ne soyons pas amis du monde. Le monde vous haïra. Et dans Jean 16, verset 33, la Bible dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Amen. Quatrième personnage, Judas. La Bible nous dit que Judas va réagir. Au verset 4, il est dit, Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer, qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ses parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. J'ai aimé la parole, la version parole vivante. Voilà comment Judas réagit. Pourquoi ce gaspillage? Ce parfum vaut une fortune. Si on l'avait vendu, on aurait pu donner aux pauvres les salaires d'une année. Ça, c'est Judas. Était-il préoccupé vraiment de ce montant-là? Non. Il attendait un bon montant qui allait atterrir dans la bourse de Jésus pour s'en occuper. Disciple de Jésus, mais voleur. C'est la Bible qui dit, nous avons lu, n'est-ce pas? Je n'ai pas inventé. Disciple, mais voleur. Prétendu disciple assimilé aux fidèles qui suivaient Jésus partout, mais voleur. Quand on voyait Jésus, il était à côté. Il était prêt. Quand on regarde Jésus, ah, on peut localiser Judas, mais voleur. Apparemment proche de Jésus, mais voleur. Moi, je voulais étendre cette liste-là. Disciple, apparemment, mais adultère. Visible dans l'église, mais adultère. Dans les sillages des serviteurs et des servantes, mais cupides, mais corrompus et corrupteurs, disciples, mais injustes, serviteurs apparemment, mais calomniateurs, ouvriers, mais menteurs. Servante, serviteur, mais violent. Vous reconnaissez-vous dans cette liste-là? Jésus savait bien sûr tout cela. Il connaissait. Il savait que Jésus, il savait que Judas plutôt volait. Il savait. Mais le moment de les démasquer n'était pas encore venu. Amen, hein? Jésus sait ce que nous faisons en cachette. Mais il y a un moment où nous serons démasqués. Ah oui, c'est la parole du Seigneur. Il y a un moment où les hommes et les femmes qui font des choses en cachette, des choses réprouvables, seront démasqués. Rien de ce qui ne reste caché, rien de ce qui est caché ne restera. Ça sera découvert. Judas laisse croire qu'il se préoccupe des pauvres. Loin de là. C'est un voleur en cachette. Et il sera démasqué. Bientôt, bientôt, très bientôt démasqué. Dans les jours qui suivent, il sera mis en lumière. Judas, c'est aussi ceux qui pensent que lorsqu'on ne sert pas le Seigneur comme eux pensent, donc on ne sert pas Dieu. Judas dit, on aurait pu vendre ses parfums et donner aux pauvres. Donc, pour lui, il avait un schéma. On vend, on donne aux pauvres. Mais le Seigneur, lui, il accepte tout ce que nous faisons qui est centré sur lui. Amen. Il accepte tout service connu de vous, connu de moi, connu du pasteur ou inconnu de quiconque. Vous pouvez ne pas être connu des hommes. Mais si ce que vous faites est à la gloire du Seigneur, le Seigneur apprécie. Amen. Oh, je rends grâce au Seigneur pour des personnes peut-être qui font des petits traités en cachette et les distribuent des versets de la parole du Seigneur. Ils auront leur récompense. Je rends grâce au Seigneur pour ceux qui n'aimeraient pas être vus. Si Dieu vous a appelé à être visible, gloire à lui. Mais si Dieu vous utilise en cachette, restez là. Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Ne soyons pas comme Judas qui pense que quand on sert Dieu d'une autre manière que nous on pense, donc on ne sert pas Dieu. Attitude dangereuse. Judas sera démasqué. Dans Actes 1, 8, après l'événement, regardez le sort de Judas. Actes 1, 18 à 19 plutôt. Je peux prendre même le verset 17. La Bible dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Vol caché, tout en cachette, mais finalité connue. Triste finalité. Triste finalité pour celui qui, en réalité, avait aimé le Seigneur, avait estimé la valeur du Seigneur 10 fois moins. Dans Matthieu 26, il est dit que Judas a vendu le Seigneur pour 30 pièces. Lui, le disciple. Mais la femme pécheresse de sa part, ou bien Marie, a estimé la valeur du Seigneur à 300 deniers. 10 fois moins. Bien-aimé, quelle est la valeur que tu donnes au Seigneur? Est-ce la valeur de 15 sur 20 à l'examen? Ou la valeur d'un emploi acquis par des moyens retors? Ou des moyens corrompus? Est-ce la valeur d'une bénédiction acquise, ou si on peut seulement appeler ça bénédiction, d'une parcelle acquise en arrachant à des veuves et à des orphelins, en dépouillant le malheureux, en réduisant les bornes du voisin? Disciples, mais injuste. Et nous terminerons enfin par Marie, la personne qui apporte les parfums. Vous comprendrez dans ce tableau des personnes que j'ai dressées que nous avons vraiment besoin des personnes qui apportent les parfums. Nous avons besoin des personnes qui glorifient le Seigneur, qui assainissent l'atmosphère spirituelle. Et cette personne, ça peut être toi. Ça peut être moi. Un seul critère nous est donné. Pécheresse pardonnée. Pécheresse pardonnée. Ou même, si nous allons dans le camp de Marie, sauvée, reconnaissante. Reconnaissante pour ce que Jésus a fait dans sa famille. Jésus a ressuscité son frère. Jésus était son ami. Était l'ami de cette petite famille. Il a ramené à la vie Lazare. Non, 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 je ne peux pas rester comme ça. À cause de ce qu'il a fait pour moi, je viens. En réalité, elle a offert plus. Elle a offert largement plus que ses parfums de 300 deniers. Elle a offert son cœur. Elle a offert sa vie. Elle a porté ses cheveux. Elle les a essuyés. Pour une femme, c'était un déshonneur que de marcher avec une tête découverte au Moyen-Orient. Lorsque nous lisons même les épîtres de Paul, On dit que la femme doit avoir la tête voilée. Mais elle, elle a découvert, elle a essuyé les larmes. Elle a embrassé les pieds. Elle a versé du parfum. Elle a montré tout son amour. Elle a donné sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur a besoin de toi. Apporte-lui ta vie. Apporte-lui ton cœur. Comme disait le pasteur au début de cette année, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Jésus a besoin de ce cœur. Peut-être que tu es fatigué de ton propre cœur, de ta propre vie. Viens, apporte-la à Jésus. Comme un parfum répandu. Marie, le Seigneur va immortaliser son geste parce que Marie a démontré une grande foi. Elle apporte le parfum, elle ne connaissait pas, elle avait entendu Jésus parler comme tous ses disciples. Lorsque Jésus va parler de sa mort, les disciples vont être scandalisés. Ils comprenaient au fur et à mesure. Elle aussi n'avait peut-être pas trop compris, mais par la foi, elle a saisi que ce Jésus, je ne serai peut-être pas avec lui toujours. Alors, ce parfum de nard que j'ai gardé, d'un salaire d'une année, je vais saisir cette occasion, je vais braver la foule, je vais braver la maison de Simon le lépreux. Comme cette femme, je vais braver la maison de ces pharisiens. Quels que soient les traitements, quels que soient les insultes, ils bravent. Et elle répand son parfum sur le Seigneur. Le Seigneur lui dit, cette femme a annoncé ma sépulture. Et partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Acte de foi, preuve d'une grande consécration. Et je nous dis, le message de ce matin, c'est une invitation à la consécration. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Bien sûr, le Seigneur, nous pouvons lui apporter beaucoup de choses, mais le Seigneur nous regarde d'abord. Il porte un intérêt d'abord sur la personne qui offre, avant de regarder l'offrande. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire à d'autres serviteurs parfois, « Prends ma dîme, va déposer. » Frère, prends cette dîme, va déposer. Non, le Seigneur, bien sûr, ça peut arriver lorsqu'il y a un empêchement, mais le Seigneur veut d'abord la personne. Dans Genèse 4, 3 à 5, je ne lirai pas, nous sommes à la fin, le Seigneur dit, la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien-aimé, que le Seigneur porte un regard favorable sur ta personne. Quand tu seras véritablement converti, transformé, ta poche aussi sera convertie, transformée. Tes mains seront converties, transformées. Tout ton corps et toutes les parties de ton corps seront convertis, transformés. Alléluia. Invitation à la consécration. Et je terminerai par là. Pour que nous ayons véritablement un parfum, pour que nous soyons un parfum de bonne odeur agréable au Seigneur, c'est comme tout parfum. La fleur peut être jolie, elle doit être cueillie, mais elle doit être broyée afin que la senteur puisse dégager. Et très souvent sur ce chemin, pour répandre la bonne odeur, nous rencontrerons le brisement de l'être intérieur, le brisement du moi. Alléluia. Oh, peut-être que ce message est en train de te briser. C'est pour que du parfum en sorte. Ta famille a besoin du parfum. Ton église a besoin de ce parfum que tu peux. La nation a besoin du parfum. Ton quartier a besoin du parfum. Ton avenue a besoin du parfum. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever pour parler au Seigneur. Alléluia. Et réagir par rapport à ce message, par rapport à cette invitation à la consécration. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez pas encore fait l'expérience de rencontrer le Seigneur. Vous êtes encore perdu dans vos péchés. Vous voulez, à l'issue de ce message, rencontrer le Seigneur comme sauveur. Là où vous êtes, alors que pratiquement nous tous, nous sommes en train de prier pour nous consacrer au Seigneur, j'aimerais juste voir les mains levées de ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Vous voulez quitter d'une étape où vous répondez des problèmes, où vous êtes un problème, vous êtes un cas. Apparemment, dans votre famille, vous êtes comme une odeur nauséabonde, difficile, à cause des péchés, à cause de la destruction des foyers d'autrui, à cause de la sorcellerie ou de l'occultisme, des sacrifices faits dans votre famille. Mais vous vous retrouvez quand même là où écoutant la parole du Seigneur. Vous pouvez lever, nous allons prier, c'est votre jour. Le Seigneur veut vous rencontrer. Merci pour les mains qui s'élèvent. Oh, vous pouvez répéter, Seigneur, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés, change-moi, change ma vie, change mon cœur. Alors que nous tous ensemble, nous prions, Seigneur, fais de moi un parfum. Change ma vie. Je ne veux plus être un disciple, mais non, je ne veux pas vivre cette vie. Je veux que ma vie soit véritablement un parfum de bonne odeur. Je me donne à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Randaba Santa. Lève-toi, parle au Seigneur, consacre-toi. Demain, l'occasion te sera donnée encore ce soir de sortir dans les champs. Veux-tu comprendre les problèmes des autres? Veux-tu être un parfum de bonne odeur pour les autres? Veux-tu être un canal de vie et de bénédiction? Consacre-toi toi-même d'abord. Apporte ta vie auprès du Seigneur. Je me donne en parfum. Seigneur, je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum. Seigneur, je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Seigneur, je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, un parfum mélodie. Coulant de tout mon être, nami kabie. Oh, je me donne un parfum, Seigneur. Donne-toi un parfum et ton service sera un parfum.